demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 2 mai. Nous reviendrons dans cette édition sur le défilé du 1er mai. 4000 manifestants à Lyon. La féminisation de l'espace public, en particulier dans le 1er arrondissement. 3 nouveaux lieux vont bientôt porter des noms féminins. La chanteuse reine de la nuit, Régine, est décédée à l'âge de 92 ans. Elle avait un rapport particulier avec Lyon. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Cette semaine, nous avons choisi un fil rouge végétal. À découvrir dans ce quart d'heure lyonnais, une ferme en plein cœur de Lyon, rue du Port du Temple. Et bien sûr, un résumé des principaux résultats sportifs du week-end.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Augmentation générale des salaires, des pensions et des allocations, défense de la retraite par répartition, de la sécurité sociale, des services publics, les revendications de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, UNEF et SO du Rhône étaient nombreuses hier pour le 1er mai. 4000 personnes ont défilé entre Rhône et Saône. Encore un acte d'homophobie et une fois n'est pas coutume, ça se passe à la campagne. Le journaliste de BFM Lyon, Léo Chapuis et son compagnon ont été insulté par un groupe d'adolescentes alors qu'il se promenait simplement à proximité du stade de Saint-Christo en Jarret. Léo Chapuis est originaire de Haute-Loire. Première réflexion du groupe de jeunes filles à se dépêler. Un peu plus tard, alors que le couple quitte les lieux, l'une d'elles lance « Vous êtes gay ? Qui c'est qui la met ?» On n'a pas voulu en rajouter, on a tracé notre chemin, commente le journaliste de BFM Lyon. Léo Chapuis vit en couple depuis une quinzaine d'années. Il dit vivre son homosexualité simplement, sans honte ni fierté, et n'est pas militant de la cause. Son tweet a déclenché en tout cas une avalanche de réactions, des centaines de retweets et près de 6500 likes. De nombreux politiques de tous bords, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a réagi en apportant son soutien à Léo Chapuis et à son compagnon. Cela prouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, dit-il. Le maire de Saint-Christo-en-Jarret a lui contacté le journaliste. La lycéenne a été identifiée. Elle est convoquée par le maire avec ses parents pour un rappel à la loi et une leçon de tolérance. La jeune fille va adresser une lettre d'excuse à Léo Chapuis et son compagnon. Incident clos, conclut le journaliste sur son compte Twitter. Féminiser l'espace public, c'est la démarche engagée par la mairie du 1er arrondissement de Lyon qui va bientôt inaugurer 3 lieux qui porteront des noms féminins. Après un appel à contribution et une consultation citoyenne en ligne, le choix a été fait. Le verger des rues Baudin, Magnon, le square de la rue Burdeau et le City Stade de la rue Vaucanson vont devenir respectivement Verger Solitude, en référence à Rosalie, de son vrai nom, héroïne de la lutte contre l'esclavage au 19e siècle en Guadeloupe. Il y aura aussi le square Marsha P. Johnson, une militante transgenre américaine pour l'égalité des droits. Le City Stade Marie Marvin, née à Aurillac en 1875, elle est connue pour ses qualités de pilote et d'héroïne de guerre. L'inauguration du Verger Solitude est prévue le 10 mai, à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. L'inauguration du square Marsha P. Johnson le 17 mai, ce sera l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Enfin, le City Stade Marie Marvin sera inauguré le 27 juin prochain, à l'occasion de la semaine du sport dans les écoles. La chanteuse reine de la nuit, Régine, est décédée à l'âge de 92 ans. Elle a été propriétaire de 22 discothèques dans le monde entier. La Grande Zoa, Azuro, Les Petits Papiers ou encore Patchouli Chinchilla. Ses chansons sont devenues cultes. Mais elle avait un lien particulier avec Lyon. À la fin de la guerre, elle se fiance avec le neveu du grand rabbin de Lyon. Mais avant même le mariage, la Gestapo arrête son fiancé qui meurt en déportation.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Vanina Nicoli, c'est le nom de la nouvelle préfète pour l'égalité des chances. Elle a pris ses fonctions le 27 avril dernier et succède à Cécile Dindard, qui a été nommée préfète de l'Aube. Dans ses fonctions de secrétaire générale, elle assistera le préfet du Rhône, gérera les ressources humaines et les moyens affectés à la préfecture. En tant que préfète déléguée pour l'égalité des chances, elle animera et coordonnera les dispositifs de l'État en matière d'emploi, d'éducation, de logement, de rénovation urbaine et de citoyenneté. Santé publique France a publié un nouveau bilan de l'épidémie de salmonellose chez des jeunes enfants en lien avec la consommation de produits de la marque Kinder. 59 cas de salmonellose identifiés au niveau national. 17 personnes ont été hospitalisées, toutes sorties depuis. Ces 59 cas sont répartis sur 11 régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes, désormais 4e région la plus concernée, avec 7 cas.
Lyon demain, idée en partage.
Cette semaine, dans le quart d'heure lyonnais, nous avons choisi un fil rouge végétal. Une ferme en plein cœur de Lyon, la Tige. Rendez-vous rue du Port du Temple, une rue très étroite entre la place des Jacobins et le quai Saint-Antoine. Ici, pas de place pour installer une serre, même pas un bac de jardinage sur le toit de l'immeuble. Tout se passe dans une boutique discrète au rez-de-chaussée et à l'intérieur, une micro-ferme qui fournit quelques 80 restaurants. Yanis Soul a rencontré Romain Janiot, un fermier un peu particulier, ingénieur de formation. C'est lui qui a créé ce lieu de production, pour le moins original.
L'initiative, elle part de plein de constats, et notamment l'aspect écologique et alimentation, le fait de produire là où on consomme directement, dans les milieux urbains en France. Donc l'idée était de trouver des techniques et des technologies qui permettent de produire directement au centre, en centre-ville dans notre pays, pour éviter les exportations et les importations, pour éviter vraiment aussi le transport et les consommations d'eau excessives.
Pourtant, j'ai vu votre parcours, vous venez pas du tout de l'agriculture, vous n'étiez pas dans ce monde-là en fait.
Alors moi j'ai une formation d'ingénieur, donc il y a pas mal de dominantes techniques dans ce qu'on fait aujourd'hui, puisque quand on produit en intérieur, on recrée toutes les conditions qui sont naturellement présentes en culture traditionnelle. Donc on va avoir l'électronique avec les spectres lumineux, on va avoir la chimie au niveau de l'eau, et puis après on a tout ce qui touche au végétal. Donc finalement on se retrouve à gérer des systèmes qui s'apparentent beaucoup à des systèmes avec lesquels on travaille dans nos formations d'ingénieurs, et même dans mon expérience que j'ai pu, les quelques années de travail que j'ai pu faire avant de lancer cette initiative. Donc finalement, hormis l'aspect végétal, il y a beaucoup de choses similaires au contraire.
Et une ferme urbaine est complètement fermée. Comment ça se passe concrètement? J'imagine que ça ne pousse pas de la même manière les plantes que vous cultivez ici.
Alors en fait, on recrée exactement les conditions idéales pour la plante. Donc au niveau du substrat, au niveau des conditions de température, d'hygrométrie, les conditions de ventilation, les nutriments également de la nourriture en fait des plantes. Donc on lui donne exactement ce dont elle a besoin et qu'elle va capter naturellement dans la terre habituellement. Après, au niveau du résultat final, on a un produit qui est parfait entre guillemets, au sens où il respecte exactement ce qu'il y a dans la génétique de la graine. Nous, on vient simplement lui donner les conditions idéales pour qu'elle pour ne pas qu'elle ait de stress lié aux intempéries, notamment au froid, au vent, au chaud, peu importe, et qu'elle ait l'équivalent d'une belle journée d'été tous les jours, donc elle donne le meilleur d'elle-même.
Et pour ça, vous avez dû adapter le local que vous avez créé, entre guillemets, non ?
Oui, on est arrivé ici, on a un peu réhabilité l'espace en isolant comme il fallait. C'est vrai que c'est la culture intérieure, notamment en utilisant les trois dimensions, demande une certaine disposition de l'espace. Donc on a une belle hauteur sous plafond, et après c'est de l'isolation et de l'équipement hydroponique bien spécifique qu'on utilise.
Vous avez dit que le produit final était parfait entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que dans une ferme fermée, ça pousserait mieux qu'en ferme justement traditionnelle?
Alors ça pousse pas mieux, mais on va avoir des avantages comme des inconvénients d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'on produit aujourd'hui 12 mois sur 12. On n'est pas sujet à la saisonnalité, et on peut aussi recréer des climats. Donc on peut amener des plantes qui ne poussent pas habituellement avec le climat qu'on a en Europe. Donc il y a ces avantages-là. Ensuite, le produit en lui-même va être beaucoup plus régulier, va être toujours le même. Là où en extérieur, en plein champ, on va plutôt parler de terroir. Et là, ça peut dépendre d'une région à l'autre. Un basilic va peut-être pas avoir le même goût en fonction de là où on cultive. C'est ce qu'on voit avec les vins, avec les vignes. Pour toutes les plantes, c'est la même chose. En hydroponie, on travaille hors sol. Donc on a un produit qui est beaucoup plus standardisé. Donc qui est effectivement parfait au sens technique. Par contre, on va avoir moins de variantes.
Quelles sont les plantes principales que vous cultivez ici dans cette ferme?
Alors ici, on cultive environ entre 40 et 50 variétés en parallèle. Et donc ça englobe tout ce qui est micro-végétaux, donc micro-pousses, jeunes pousses, grandes plantes à état adulte et fleurs comestibles. Et on a pas mal de plantes du côté asiatique, pas mal de plantes sud-américaines, on va avoir des plantes du bassin méditerranéen, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de cette région du monde. On va avoir des plantes d'altitude aussi, on travaille avec des plantes antillaises, on tente pas mal de choses en fait, on est assez ouvert. Le but, c'est d'amener des choses nouvelles en fait à la gastronomie, et de pas réinventer la roue et de refaire des choses basiques. Il y a des gens qui le font très bien, hein, des maraîchers, donc le but, c'est pas de refaire la même chose, c'est vraiment d'amener un peu de nouveauté tout en étant le plus écologique possible.
Et d'ailleurs, vous fournissez des restaurants lyonnais et proximité.
Ouais, le concept, c'est de produire là où on consomme. Donc, on est souvent sollicité pour exporter nos produits, pour les envoyer ailleurs en France. On refuse systématiquement, puisque le but, c'est vraiment d'avoir un outil de production pour la communauté lyonnaise et les alentours. Et si demain, on devait proposer nos produits ailleurs, on irait produire dans ces zones.
Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est votre entreprise, entre guillemets, elle s'est agrandie. Il y a des salariés maintenant, c'est ça?
Ouais, on est 3, on sera bientôt 4, sachant que le modèle que j'ai créé ici, il est fait pour 4 à 5 personnes. Voilà, ni plus ni moins, c'est vraiment le modèle de micro-ferme qui a été beaucoup théorisé en Asie, notamment au Japon, où on est entre 40 et 100 mètres carrés, et le but est de créer quelques emplois et d'alimenter une communauté locale. C'est un modèle qui est amené à être dupliqué, plutôt que d'être agrandi, et spécialisé à chaque fois sur une catégorie de produits, plutôt que d'avoir des usines qui produisent un petit peu tout, où là, la qualité commence à être diluée au détriment de la quantité.
Vous ne comptez pas l'agrandir, tout simplement?
Non, ici, il n'a pas du tout vocation à être agrandi. D'ailleurs, on ne pourrait même pas, parce qu'on est dans des bâtiments qui sont classés en plein centre-ville de Lyon, donc c'est vraiment c'est un truc qui est sur mesure. Et si demain, on devait produire autre chose, si demain, on devait faire des champignons, par exemple, ou d'autres plantes, ou des tomates, ou des fraises, on ferait ça dans un autre espace. Le but, c'est de pérenniser l'activité. Moi, vous savez, quand j'ai commencé, c'était d'être indépendant, de créer mon propre emploi. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir créer aussi d'autres emplois. Après, l'objectif n'a jamais été de devenir une multinationale. C'est vraiment de recréer aussi du lien social entre les économies locales. Ici, tout ce qui vient, tout ce qu'on utilise, que ce soit consommable ou non, on essaie de faire un maximum avec les acteurs locaux. Donc le but, c'est ça. Donc voilà, de créer quelques emplois. Et puis j'ai cité quelques pistes à eau auparavant. Voilà, il peut y avoir, ça peut partir dans ces directions-là. Ouais.
Romain Janiot au micro de Yanis Soul. La Tige propose aussi des ateliers pour s'initier à la culture des micro-pousses. Pour y participer, rendez-vous sur le site latige.fr. La préfecture vient de placer l'ensemble des masses d'eau souterraines du département du Rhône et de la métropole en situation de vigilance sécheresse. Pour l'heure, cette décision ne s'accompagne d'aucune restriction et d'interdiction particulière de l'usage ou de la consommation d'eau. L'objectif est d'alerter sur la sensibilité de la ressource en eau. Si la situation, bien sûr, ne s'améliore pas au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires restrictives pourront être prises. C'est une semaine de transition dans le département du Rhône pour les pollens. Les concentrations de pollen de bouleau sont en effet sur le déclin. Les pollens de graminées sont aussi au niveau moyen, mais sur une pente ascendante. Les concentrations devraient logiquement augmenter sous l'effet de la chaleur et du soleil. Certaines de ces graminées sont très allergisantes, comme la fléole, le pâturin, l'ivraie, la flouve, le seigle, la ouane ou encore le blé. Vous pouvez consulter toutes les semaines, bien sûr, le bulletin du Réseau national de surveillance aérobiologique.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Les résultats sportifs du week-end en Ligue 1, l'Olympique lyonnais démontre son caractère à Marseille en s'imposant 3-0. Cela ne les ramène pas sur le podium, mais les Lyonnais conservent leur chance d'accrocher un ticket européen à la fin de la saison. Des buts de l'OL signés Loukeba, Dembélé et Cambi, tous les trois en deuxième période. L'Olympique lyonnais est désormais septième. En Ligue des champions féminines face à l'OL, un redoutable Barça se profile en finale. L'Olympique lyonnais retrouvera en effet en finale le FC Barcelone à Turin le 21 mai, une formation qui détient le titre que les Lyonnaises veulent à tout prix récupérer. En basket, en élite, l'ASVEL assure contre le Mans. Malgré un début de seconde période quelque peu raté, l'équipe villeurbanaise a logiquement dominé le Mans 86-74. C'est sa 8e victoire consécutive, ce qui permet donc à l'ASVEL de rejoindre Boulogne-le-Valois en tête du championnat. En Ligue féminine, l'ASVEL bat Saint-Amand 76-74 après prolongation et termine 3e de la saison régulière. Les Lyonnaises recevront Rochemandé à Madobonnet dès le samedi 7 mai, donc samedi prochain, pour le match aller des quarts de finale des play-offs. Enfin, en rugby, en top 14, le Loup fait exploser Montpellier à Gerland. Les Lyonnais se sont payés en effet le leader, 43-20. Ils ont pris le bonus offensif en prime. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée et un excellent début de semaine.